RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Laurence Rossignol, sénatrice socialiste du Val-de-Marne, vice-présidente de la délégation des droits des femmes. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cinquième jour d'affrontement entre Israël et l'Iran. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, les députés se sont affrontés. La France insoumise notamment reproche à Emmanuel Macron de soutenir Israël. Est-ce votre sentiment et votre position ?
Alors, d'abord, mon premier sentiment, il est pour les populations à la fois d'Iran et les populations d'Israël. Parce que nous, on est là, on parle bombardement, attaque, on regarde ça comme si c'était un film. Et je voudrais dire quand même que les gens vivent dans la peur à Téhéran aujourd'hui et puis aussi à Tel Aviv. Et il faut se rappeler ça quand même, que la guerre, c'est un trauma pour demain. Pour tous ces gens-là. Ceci étant dit, est-ce que le gouvernement soutient Israël ? Peut-être qu'il ne faut pas poser la question comme ça, il faut poser la question autrement. Est-ce que Israël a des bonnes raisons de considérer que l'Iran est une menace pour son existence et une menace physique ? Est-ce que le gouvernement iranien, depuis toutes ces dernières années, a accepté de donner des signes suffisamment importants dans les négociations internationales pour qu'on puisse penser qu'ils ont renoncé à produire du nucléaire ? Non. Donc, il y a effectivement un sujet pour Israël qui est celui de leur propre, de la sécurité d'Israël, et un sujet.
Qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Macron ?
Oui, je crois que c'est factuel. Non,
mais c'est ce qu'on lui reproche, la France insoumise.
Oui, mais je ne sais pas si la France insoumise est vraiment un élément intéressant dans les discussions de géopolitique et internationales.
C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale
aujourd'hui. Oui, je comprends bien, ça fait les questions au gouvernement, mais bon, l'avis de la France insoumise sur ce qui se passe au Proche-Orient me paraît pas être excellent. Je lisais hier le blog de Jean-Luc Mélenchon dans lequel il explique que la haine et la peur de l'Iran sont en fait motivées par une islamophobie. Comment on peut raconter des choses pareilles ? S'il y a bien un pays qui souffre de l'islamisme, c'est l'Iran, ce sont les femmes et la jeunesse iranienne. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je rêve que le régime des Mollahs tombe.
Mais, et vous pensez que les circonstances peuvent favoriser cette chute du régime ?
En fait, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que si le régime des Mollahs tombe sous la déstabilisation militaire d'Israël, est-ce que c'est la meilleure façon de permettre au peuple iranien d'accéder à une démocratie ? Et puis, il faut quand même faire attention, parce qu'il ne faudrait pas que Netanyahou fasse évoluer son but de guerre. On sait que s'il l'a fait à Gaza, il peut le faire aussi en Iran. Le but de guerre de Netanyahou, c'est de détruire les installations nucléaires.
Oui. Alors,
ce n'est pas de faire tomber le régime, il n'est pas légitime à faire ça.
Pourtant, aujourd'hui, on sent bien que c'est aussi l'un des buts. Mais ça fait des années qu'on dit que l'Iran n'est plus qu'à quelques mois de posséder l'arme atomique. Si cette menace est réelle, est-ce qu'on peut reprocher à Israël de vouloir éviter de se retrouver avec un Iran doté de l'arme nucléaire, sachant que l'Iran n'a jamais caché son intention de détruire ce qu'il appelle l'entité sioniste.
Mais je crois que dans mon propos...
Non, je vous pose la question.
Voilà, mais dans mon propos, il n'y avait pas de reproche de ce type à l'égard d'Israël. Effectivement, l'Iran est une menace pour l'existence d'Israël. Parce que c'est la cible. L'Iran est une menace d'ailleurs pour tout le monde. C'est une menace par l'intermédiaire à la fois du Hezbollah, de groupes terroristes. Donc l'Iran est une menace physique, pas simplement pour Israël, mais aussi pour nous. C'est-à-dire que l'Iran aussi arme les terroristes. Donc, Israël considère qu'à défaut de voir aboutir des négociations internationales, à défaut que l'Iran soit transparent dans ses négociations internationales et soit fidèle à une quelconque parole, à un moment donné, on peut considérer qu'Israël prend des mesures. Mais ce que je voulais dire immédiatement après, c'est qu'il y a une différence entre détruire les installations nucléaires parce que c'est nécessaire à la sécurité d'Israël, et mener une guerre qui va au-delà de ça. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on veut tous que le régime des Mollahs tombe, mais si Israël va trop loin dans ses buts de guerre, le risque de ressouder le peuple iranien est important. Les gens n'aiment pas tellement qu'on vienne se mêler à leur place de savoir qui doit les gouverner et comment les gouvernements doivent tomber. Donc il faut que Israël arrête juste au moment où il a suffisamment fragilisé ce régime pour que le relais soit pris par le peuple iranien et pas dans des conditions qui sont des conditions qui pourraient conduire au chaos et non pas à la démocratie.
Alors Donald Trump a déclaré aujourd'hui « Nous voulons plus qu'un cessez-le-feu », je cite, « Emmanuel Macron est un mec sympa, mais il a souvent tort ». Est-ce que ce n'est pas un peu vexatoire pour le président français ?
De toute façon, la somme des propos de Donald Trump sur les autres dirigeants, sur l'état du monde, la versatilité aussi de son comportement politique, de son comportement international et diplomatique, fait que, bien sûr, c'est grossier, mais enfin, l'homme est grossier. Quand il a reçu Zelensky dans les conditions dans lesquelles il l'a reçu, on ne peut pas s'attendre de ce président des États-Unis qu'il fasse preuve de, même pas de courtoisie, mais du respect que sa fonction devrait le conduire à
assumer.
Et de rationalité. Bon, c'est ce que j'évoquais, sa versatilité, une ligne diplomatique qui est totalement faite de coups de gueule, de recul. Voilà, donc bien sûr, il n'a pas à dire ça sur Emmanuel Macron, mais il traite Emmanuel Macron comme il traite plein de gens.
Est-ce que vous pensez que Donald Trump, qui régulièrement pendant sa campagne électorale s'est félicité d'être un chef d'État lors de son premier mandat qui n'a jamais engagé les États-Unis dans aucun conflit, est-ce que vous pensez que cette volonté-là peut être déterminante dans l'attitude qu'il va avoir face à la situation actuelle ?
Alors, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à votre question et comme je ne veux pas répondre une sottise, je passe mon
tour. On est plongé dans des abysses
de
perplexité.
Moi, je sais, c'est très difficile de. Ce que vous me demandez est très difficile, c'est-à-dire d'interpréter et voire même d'anticiper ce que dit Donald Trump, d'essayer de faire le lien entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. On voit bien qu'il y a une politique
isolationniste. Ce qu'il va faire aussi.
Entre ce qu'il a dit et ce qu'il va faire. Et on voit bien qu'il y a une politique isolationniste de la part de Donald Trump qui s'accompagne d'une politique impérialiste sur le plan économique, enfin, il associe les deux. Sur le plan des relations diplomatiques internationales, c'est assez compliqué parce que si on regarde ce qu'il a fait dans le conflit en Ukraine, c'est totalement erratique, ces positions. Donc je ne suis pas capable de répondre à votre question, j'en suis désolée, mais si vous trouvez quelqu'un qui peut répondre, je suis preneuse de la réponse.
Au moins, vous le dites, et c'est bien, trop d'invités parfois font des circonvolutions, même s'ils ne savent pas. Donc je loue votre sincérité. C'est bientôt la fin du conclave sur les retraites. Le Premier ministre François Bayrou espère un accord entre partenaires sociaux. Croyez-vous qu'il puisse sortir quelque chose de significatif de ce conclave, ou alors on va encore patiner pendant des mois et des mois?
Écoutez, j'espère. Le Premier ministre a redonné du temps de discussion aux partenaires sociaux. S'il l'a fait, j'ose imaginer que c'est parce qu'il y a du grain à moudre dans la négociation encore. Je sais qu'une partie de la sortie repose sur aujourd'hui les organisations patronales, et en particulier sur le MEDEF. Il a été posé comme postulat quasiment maintenant qu'il n'y aurait pas de modification de la mesure d'âge, qu'on resterait sur la. Enfin, que le conclave ne pourrait pas revenir sur la retraite à 64 ans. Je sais que les partenaires sociaux discutent et essayent de faire. On fait des propositions sur toute une série de. D'autres sujets majeurs dans le régime de retraite, sans particulier la retraite des femmes. Là, on sait tous que les femmes ont un montant de retraite qui est bien inférieur à celui des hommes et qui est très faible, qui parfois les amène à la pauvreté. Ce sujet-là, et bien entendu les questions de pénibilité, qui en fait ne sont jamais totalement, en ont jamais été depuis le temps qu'on en parle totalement. On n'a pas trouvé le système simple.
Et là, c'est une occasion ou pas ?
C'est une occasion. De toute façon, toutes les occasions sont bonnes pour faire progresser les droits des salariés dans le système de retraite. J'espère, pour ma part, je souhaite qu'ils y arrivent. Voilà, je souhaite qu'ils y arrivent, parce que si c'était une sortie sèche du conclave avec aucun accord, eh bien en fait ce serait le statu quo. Voilà, on resterait à la réforme de 64 ans.
Il y a l'hypothèse d'un accord global, il y a l'hypothèse d'un accord partiel, c'est-à-dire sur un certain nombre de points, comme ceux que vous avez évoqués. Est-ce que pour vous, il faut François Bayrou l'avait évoqué, qu'un texte soit soumis au Parlement, qu'il y ait accord global ou non.
Écoutez, dans la mesure où une partie une grande partie de la réforme des retraites qui est aujourd'hui contestée et rediscutée dans ce conclave vient de la procédure législative, il est clair que s'il y a des modifications de caractère législatif, il faudra que ça aille devant le Parlement. Après, la question que vous voulez me poser, c'est est-ce qu'il y a une censure?
Parce que François Bayrou semble avoir changé de point de vue, puisqu'il avait dit au moment où il avait annoncé ce conclave, il y aura un texte qui sera présenté au Parlement, qu'il y ait accord global ou non. Or là, il vient de dire, s'il n'y a pas d'accord global, c'est la loi Borne qui s'applique, point barre.
Écoutez, on va attendre.
En effet, ça n'est plus la même mécanique.
Oui, on va attendre
de savoir. Il y a une menace de censure aussi.
Il y a une menace de censure aussi, surtout s'il n'y a rien, s'ils sont en rien. Puisque c'était la condition de la précédente non-censure de la part des socialistes, était pas simplement un conclave, mais qui était aussi des avancées et des modifications substantielles sur la réforme précédente. On va attendre de voir ce qui sort. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est les partenaires sociaux avant les politiques. Voilà, et que les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Voilà, sur quoi ils auront avancé? Et est-ce que les syndicats de salariés qui sont dans la discussion vont dire qu'effectivement, ils considèrent qu'il y a un accord qui est suffisamment important pour qu'on en arrête avec ce conclave? Je ne sais pas à cet instant, et je ne veux pas en plus anticiper les conséquences politiques de quelque chose qui est encore aujourd'hui entre les mains des partenaires sociaux. On ne peut pas en appeler à la démocratie sociale tout le temps et faire intervenir le politique au moment où la démocratie sociale est en train d'essayer de construire quelque chose.
On va parler du Parti Socialiste dans un instant, mais un mot peut-être sur... Parce que vous êtes en colère, en tout cas, on peut le voir sur Twitter, enfin sur X maintenant, contre Olivier Faure, vient d'être réélu à la tête du PS, après ses propos sur Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que Jérôme Guedj avait traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, et si je résume, Olivier Faure a un peu renvoyé les deux dos à dos, et ça vous a irrité.
Ça m'a plus qu'irrité, ça m'a meurtri, ça m'a choqué. J'ai eu l'impression que le premier secrétaire du Parti Socialiste, fraîchement réélu, commençait son mandat par le lâchage d'un de ses collègues, et pas n'importe lequel, et pas sur n'importe quel sujet, en plus. Voilà, tout le monde sait que Jérôme Guedj est, depuis des mois et des mois, la cible, pas simplement de Jean-Luc Mélenchon, mais de toute l'équipe, l'équipe mélenchoniste de LFI, toute une série de ses députés, qu'il est accusé régulièrement par eux de... Il est insulté, voilà, il n'est pas accusé, il est insulté avec des insultes à caractère très antisémite, c'est-à-dire que je considère que penser que tous les Juifs qui vivent en France, qui comme Jérôme Guedj, n'ont pas attendu la semaine dernière pour se battre pour une solution à deux États, qui sont des socialistes qui depuis longtemps sont investis à l'époque où la France insoumise, personne ne s'intéressait à ce qui se passait là-bas, sont investis depuis longtemps dans l'amitié entre les Palestiniens et les Israéliens pour une solution de paix à deux États. Ce qu'ils essuient depuis des mois de leur part, qui sont de nature antisémite, parce que ça leur renvoie, comme l'a si bien dit Jean-Luc Mélenchon, au fait que son point de vue est disqualifié parce qu'il serait juif, et que tous les juifs seraient supposés être a priori, il y aurait une présomption quasi irréfragable du fait qu'ils sont tous pro-Netanyahou, c'est de l'antisémitisme. Voilà. Et donc je comprends que Jérôme Guedj ait, au bout d'un moment, fini par dire que c'était plus possible et qu'il employait les mots qu'il a employés. Après, j'attendais du premier secrétaire du PS qu'il soit
assez... Il a retiré le mot salopard, d'ailleurs.
Oui, il a retiré le mot salopard. Il reste le mot antisémite, c'est le plus important.
Est-ce qu'il y a une posture... Il y a la posture de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, pro-musulman, pour des... évidemment, des calculs électoraux. Mais pour autant, est-ce que... cet antisémitisme, entre guillemets, qu'on peut prouver peut-être sous certains aspects, est-ce que vous venez de démontrer là, est-ce là aussi une idéologie dans le fond ou vraiment encore un calcul électoral?
Écoutez, je ne sais pas. Moi, je ne sonde pas les cœurs et les âmes. Ce que j'observe, c'est que la France insoumise, bon nombre de leurs élus, bon nombre de leurs intervenants sur les réseaux sociaux, excite et font monter l'antisémitisme. Et que dans le conflit, et en particulier ce qui se passe à Gaza, alors qu'on devrait être tous ensemble d'accord pour dire cessez le feu, libération des otages, levée du blocus humanitaire et solution à deux États, ce que je constate, c'est que du côté de la France insoumise, c'est un sujet de prospérité politique en France. Alors, est-ce que c'est un calcul ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a des choses troublantes quand même. Quand Jean-Luc Mélenchon dit par exemple que le Christ a été tué par les siens, c'est-à-dire cette vieille histoire du peuple déicide, oui. Ça c'est ce qu'on apprenait il y a plusieurs dizaines d'années au catéchisme. Plus personne aujourd'hui, même dans les milieux
c'était
catholiques,
ne transmet ça. La thèse des nazis, hein, pardon.
Voilà, enfin, c'est vraiment l'antisémitisme le plus historique, c'est celui de dire que c'est le peuple déicide. Et je m'étonne de la facilité avec laquelle ces mots-là viennent dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et ça je me dis que ça ne peut pas être uniquement par opportunisme politique. Je connais peu de gens qui sont capables de parler, de dire ça.
Oui, mais vous le connaissez depuis longtemps, Jean-Luc Mélenchon. Il était au Parti Socialiste, il a été ministre de François Mitterrand. Est-ce que vous avez pu déceler à un moment ou un autre ce genre d'idéologie qui pouvait naviguer en lui ou à travers ses propos?
Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour avance, que je me contente de dire que pour aujourd'hui, il y a d'une part de nombreuses déclarations, et d'autre part, il y a des enquêtes qui sont sorties qui montrent que dans l'électorat de la France insoumise, il y a un nombre important de leurs électeurs qui cochent tous les items de l'antisémitisme. Vous savez, tous ces lieux communs, toutes ces représentations. Si j'étais à leur place, et je vois ça dans mon électorat, je considérerais que c'est une de mes responsabilités et une cause majeure que de faire changer cet électorat, d'éduquer son électorat. Or, non seulement il est sphère, mais en plus il s'alimente.
Laurence Rossignol, il nous reste à peu près une minute. Je voudrais qu'on évoque quelques instants ce mouvement No Kids, c'est-à-dire les espaces interdits aux enfants. Hein. C'est comme ça qu'on peut résumer les choses. Vous êtes à l'origine de la bataille contre ce phénomène qui gagne du terrain et qui est repris actuellement, enfin cette bataille est reprise actuellement par la haut-commissaire à l'enfance Sarah El-Haïry. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut légiférer en la matière et interdire ce type de pratique?
Moi, j'ai déposé une proposition de loi l'an dernier parce que je pensais qu'il fallait réveiller la société française avant que tout ça s'installe. C'est une affaire de business. Donc, il y a des gens qui créent une offre, ils créent le marché en se disant qu'ils vont ensuite susciter la demande. C'est pas une demande qui monte
spontanément.
Ouais, spontanément. Donc, réveiller la société française. Je suis passée par une proposition de loi pour préciser que les lois sur les discriminations concernent aussi les enfants,
oui.
Ce qui est pas totalement évident quand on lit le code pénal aujourd'hui. Et je pense que c'est bien qu'on utilise la loi pour aussi éduquer la société française. Et je pense que c'est le moment où il faut dire stop. Les enfants ne
c'est
font pas des nuisances.
C'est le moment où il faut dire stop, je vous le confirme. Merci.
c'est ce que je vous ai proposé. Les enfants
bonne
ne
soirée.
Font pas des nuisances.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à Flore Simon et à Camille Nérand. Merci Frédéric. Merci Laurence Rossignol
d'être
passé sur le plateau de France 24 et RFI. À très vite.